Bonsoir, comment allez-vous ? Je n'ai jamais cru ni aux démons, ni à la théorie du complot, ni à celle des extraterrestres exterminateurs. Je n'y avais jamais cru jusqu'à l'arrivée des nouveaux Vélib dans Paris. D'abord, pourquoi avoir éventré la chaussée pour enlever les anciens ? Parce qu'il y en avait un nombre effrayant au fond du canal Saint-Martin. C'est peut-être les hommes qu'il faudrait changer dans ce cas. La mairie de Paris a pensé qu'un jour, les vélos se sont dit « Tiens, on va aller se baigner !» Et plouf. Les nouveaux Vélib ressemblent à s'y méprendre à de vrais vélos. Surtout ne les approchez pas, même si vous y avez été invité par le malin sous forme de mails attractifs. Ce sont des armes. S'en approcher entraîne des lésions profondes du système nerveux. L'attaque de nouveaux Vélib se traduit par des crises de désespoir, d'angoisse, d'identité. En quelques minutes, l'utilisateur doute de tout, de lui, du monde, de ses congénères. Vous croyez que j'exagère ? Observez par vous-même le manège autour d'une station de Vélib. L'humain s'approche, se concentre, tape des codes. En quelques secondes, ses traits, ses mains se tordent. Il repart en marchant comme un automate, il n'a plus de regard, il est perdu. Si ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui a voulu punir les Parisiens pour leur arrogance. D'abord, il a envoyé le déluge. Et puis, un jeune conseiller a dit « On a mieux, on a le nouveau Vélib ».
Bonjour, je m'appelle Laetitia, j'ai 6 ans, je voudrais savoir si le diable existe et l'enfer aussi. Merci, au revoir.
Odon Vallée, docteur en sciences des religions.
Est-ce que le diable existe et l'enfer aussi ? C'est pas très gai comme question ça. Et pourtant, Laetitia, ça veut dire en latin « joie ».
Ah.
C'est un prénom joyeux. Alors le diable, est-ce qu'il existe ? Je n'en sais rien. Diable, c'est un mot qui vient du grec diabolos et qui veut dire celui qui désunit, celui qui sème la discorde et la haine, celui qui dit du mal et fait du mal. C'est l'esprit du mal, le malin, le mal personnifié qu'on appelle parfois Satan. Alors aujourd'hui, on dirait par exemple, Hitler, c'est le mal personnifié. Il a existé, c'est un personnage historique. Et en fait, ce qu'on appelle le diable, c'est le principe du mal qui va s'incarner dans l'un ou l'autre d'entre nous. Parce que nous ne sommes pas Hitler, bien entendu, mais il nous arrive de faire le mal. Nous sommes aussi tous un petit peu méchants, nous, petits et grands, enfants et adultes. Et à certains moments de notre vie, on est un peu diable. Heureusement, on ne l'est pas tout le temps. Mais je crois qu'il est inévitable que quelque part le mal existe et qu'on fasse de temps en temps le mal, qu'on soit un petit démon parfois. D'ailleurs, les parents disent ça à leur enfant, t'es un petit démon. C'est bien entendu pas très bien, mais c'est pas non plus forcément un drame de faire quelquefois un petit peu des bêtises. La comtesse de Ségur avait écrit un très très beau livre que tu pourras d'ailleurs peut-être demander à tes parents qui s'appelle « Un bon petit diable ». Et c'est un jeune Écossais qui avait 10-12 ans, qui avait des petits défauts et de grandes qualités. Alors c'était un bon petit diable, mais c'était aussi un grand cœur. Parce qu'au fond, un petit mal, un petit diable, ça protège contre des grands maux. C'est le principe des vaccinations. Chère Laetitia, tu as sûrement été vaccinée contre telle ou telle maladie, la rougeole, la poliomyélite, le tétanos. Et qu'est-ce que c'est que la vaccination ? C'est inoculer dans le corps, par une seringue, un petit mal, un petit microbe, un petit virus qui va protéger d'une maladie grave. Eh bien, avoir en soi un petit peu de mal, c'est pas forcément mauvais. Car celui qui n'a jamais connu du tout le mal, il risque parfois de faire de beaucoup plus grandes bêtises par la suite. Celui qu'on appelle le petit saint, là, il risque peut-être de faire de très grandes bêtises. Il y a des grands dictateurs comme ça. Staline, c'est un ancien séminariste. Peut-être qu'il était un petit peu trop sage quand il était jeune. Il s'est bien rattrapé en bêtise après. Alors, est-ce que l'enfer, ça existe ? Ça, je ne sais pas si ça existe. L'enfer, c'est les lieux inférieurs.
C'est ça que ça veut dire ?
Oui, les lieux inférieurs. Alors, c'est vrai, les tombes sont sous la terre. C'est inférieur. Qu'est-ce qui s'y passe ? Nul n'est revenu de la mort pour nous le dire. Le pape Jean-Paul II a dit « Ne craignez pas ». Moi, je crois qu'il ne faut pas craindre ce qui se passe après la mort, en ces lieux inférieurs que sont les tombes et devant lesquels nous allons nous recueillir. Nous ne savons pas ce qu'il y a après la mort. Nous n'avons pas à le redouter.
Les ouvrages d'Odon Vallée sont sur le site des Petits Bateaux par franceinter.fr. Ce soir, nous saurons comment marche la voix, les cordes vocales. Nous saurons également où sont les fesses de l'escargot. Et nous saurons aussi ce que mangent les shaddocks. Vous savez que les shaddocks sont nés en avril 1968.
Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 12 ans et j'aimerais savoir pourquoi le mot océanie, qui vient du mot océan, est utilisé pour parler de terre. C'est bizarre. Au revoir.
Merci Anna pour ta question. J'ai un peu honte de n'y jamais y avoir pensé. Alors, vous êtes Christian Grataloup, professeur à l'université Paris Diderot ou également professeur à Sciences Po. Et puis, vous avez écrit L'invention des continents, comment l'Europe a découpé le monde, et ça a été édité chez Larousse. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la question d'Anna ?
Ben, c'est une très bonne question, on s'étonne jamais assez des mots. Et ce n'est un paradoxe que parce qu'on pense Océanie comme un continent. Il s'agit au départ de ce qu'on appelle une partie du monde, qui est un terme malheureusement désuet aujourd'hui, mais qui est beaucoup plus juste que le mot continent, qui désigne des terres en continu. C'est un mot du XVIe siècle pour désigner des découpages des terres émergées. Mais si on y inclut des îles ou des océans, ça devient des parties du monde. Donc l'Europe, l'Asie, l'Afrique, puis l'Amérique, et finalement, le petit cinquième, qui est l'Océanie, c'est des découpages tout à fait conventionnels. C'est pas du tout naturel. Hein. Et le petit dernier a été inventé, le mot Océanie a été inventé en 1812 par un géographe français, mais d'origine danoise, qui s'appelait Conrad Maltebrun. Et qui, somme toute, a inventé ce que j'aime bien appeler une voiture balai. C'est-à-dire qu'on avait découpé le monde en quatre. Il y avait les quatre parties du monde depuis qu'on avait découvert l'Amérique. Et puis, à partir du XVIIIe siècle, avec les grands voyages, Cook, Bougainville, La Pérouse, on a découvert plein d'îles qu'on ne savait pas où ranger. Donc, on a fait une cinquième boîte de classement. Et comme c'est essentiellement liquide, cette partie du monde, on l'a appelée Océanie. D'abord, c'est l'adjectif d'ailleurs qui est apparu, océanique, mais puis le mot est apparu, l'une des cinq parties du monde. Voilà, c'est aussi bête que ça. À partir du moment où l'expression partie du monde a plus ou moins disparu et qu'on a gardé continent, bien évidemment, l'Océanie, c'est un paradoxe.
Laisse tomber les filles, gros succès de France Gall, chanson écrite par Serge Gainsbourg en 1968, encore avant 64.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants posent des questions et nous trouvons des savants pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Romane, j'ai 5 ans et demi, j'habite à Lyon, j'ai 5 ans et demi. Je suis en grande section et je voudrais savoir ce que mangent les shaddocks.
Tu connais les Shadoks à 5 ans et demi, Romane. Alors ça, Jessica Cohn, vous êtes chercheuse en histoire du dessin. Vous étiez peut-être comme elle à 5 ans et demi. Vous vous intéressiez déjà à des bandes dessinées?
Je lisais déjà des bandes dessinées, mais je connaissais pas encore les Shadoks. J'ai connu les Shadoks très tard. Et je trouve que tu as beaucoup de chance, Romane, de les connaître déjà à 5 ans et demi. Et en plus, tu poses une très très bonne question qui m'a causé beaucoup de soucis.
Ah.
Parce que, en fait, j'ai regardé, re-regardé, cherché, et je crois qu'on ne sait pas ce que mangent les Shadoks. On ne sait même pas s'ils mangent tout court, en fait.
Ah.
Alors, les Shadoks, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission qui a été créée en 1968 par un dessinateur qui s'appelle Jacques Rouxel et qui a été lu à l'écran par Claude Pieplu, un acteur de l'époque. Et c'était un dessin animé. Un dessin animé un peu bizarre, un peu loufoque, avec deux espèces extraterrestres, les gibis et les Shadoks. Les gibis sont quand même plus intelligents que les Shadoks. Mais tous les deux veulent quitter leur planète, qui marche pas très bien, pour aller vivre sur la Terre. Et ce dessin animé, c'est l'occasion de développer un monde imaginaire où on présente des précisions qui ont l'air scientifiques, mais qui sont en fait complètement absurdes. Alors dans ce cadre-là, normalement, on devrait nous dire ce que les personnages mangent. Et on sait ce que les gibis mangent. On sait même ce que ça leur fait.
Alors qu'est-ce qu'ils mangent les gibis?
Eh bien, ils mangent des fleurs. Et quand ils mangent des fleurs, ils deviennent de toutes les couleurs. Ils mangent des carottes. Et dans ce cas-là, ils deviennent oranges. Et s'ils mangent un jour des carottes, un jour rien, ça leur fait un super costume à rayures.
J'avais oublié cette histoire.
Donc la question de la nourriture, elle n'est pas absente. Et pourtant, on ne sait pas ce que les Shadoks mangent. Alors, ils font quand même des cours de mathématiques avec des nouilles et des passoires. Je me suis dit que s'ils faisaient des cours de mathématiques avec des nouilles, c'est qu'ils devaient avoir des pâtes dans leur placard. Sinon, l'idée ne leur serait pas venue.
Ils ont de l'énergie puisqu'ils pompaient.
Et ils ont de l'énergie puisqu'ils pompent. Et bien justement, j'en suis venue à avoir une théorie. Je pense que si on ne voit jamais les Shadoks manger, alors qu'ils se plaignent d'avoir faim, c'est parce qu'ils sont là uniquement pour pomper. Les Shadoks, ils pompent tout le temps. Ils pompent pour avoir du Cosmogol 999, ils pompent pour faire avancer leur fusée, ils pompent pour aider leur chef, ils pompent tout le temps.
Qu'est-ce que c'est, Jessica Cohn, le Cosmogol 99?
Le Cosmogol 999, c'est le carburant qu'inventent les gibis pour faire avancer leur fusée. Et
d'accord,
les Shadoks essayent de leur voler.
D'accord.
Sans succès. Les Shadoks, donc, ils pompent tout le temps. Ils disent même qu'ils pompent pour vivre, pour pouvoir vivre, pour pomper. Dans ce cas-là, il ne reste plus beaucoup de temps pour manger, en fait. Et tout ça, c'est lié à quelque chose d'un peu plus général. C'est lié peut-être au fait que les Shadoks, ils n'ont pas le droit d'avoir de loisirs et pas le droit d'avoir de passe-temps. Et même, quand ils arrivent sur Terre, c'est encore pire pour eux. En fait, les Shadoks, ils représentent ce qu'on appelle l'aliénation. L'aliénation au travail, surtout. Ils sont obligés de travailler et ils n'ont plus de temps pour eux, plus de temps pour être des individus, plus de temps pour le loisir et même pas de temps pour manger. Et c'est pour ça qu'ils passent leur vie à pomper et qu'on ne les voit jamais manger.
Rappelez-nous, Jessica Cohn, en quelle année sont sortis les Shadoks?
Eh bien justement, le premier épisode des Shadoks, il est diffusé fin avril 1968. Et la diffusion est tout de suite arrêtée à cause des événements de mai.
Allez, soyons fous, nous allons essayer de vous mettre quelques Shadoks sur le site des Petits Bateaux, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez bien entendu réécouter attentivement cette réponse.
Bonjour, je m'appelle Lyotte, j'ai 5 ans, je voudrais savoir où sont les fesses de l'escargot. Au revoir et merci.
Elliot, bonsoir. Où sont Jean-Claude Bonnet les fesses de l'escargot, demande Elliot. Vous avez dirigé l'unité illicicole de l'INRA. Puisque l'escargot a une coquille qu'il a depuis qu'il est petit, qu'il n'en change jamais, qu'il ne peut pas sortir, il ne fait pas ses besoins dans sa coquille quand même?
Non, pas du tout. L'anus se trouve juste en bordure de la coquille. Et c'est par là qu'il va excréter.
Donc dehors?
Donc à l'extérieur. Ce que les gens souvent appellent le tortillon ou le derrière, vous voyez, qu'ils ne vont pas consommer. Il ne s'agit pas de l'anus, il s'agit du foie et du pancréas. Et c'est à l'intérieur de ces organes que l'escargot va stocker des petites granules de calcaire qui lui serviront à réparer sa toiture s'il en a besoin.
En fait, il a l'anus dans le cou?
Il a l'anus dans le cou, juste en bordure du poumon également.
Et il excrète quoi? Du liquide ou
non,
de matière fécale aussi?
Comme un genre de pâte qui va, d'accord, suivant ce qu'il va consommer. Si c'est de la farine fabriquée exprès pour élever des escargots, ça sera plutôt de couleur blanchâtre, beige. Et autrement, dans la nature, il va excréter plutôt d'une couleur verdâtre en tirant vers plus foncé. Voilà.
Et les organes génitaux, ils sont où?
Ben, ils sont aussi dans la tête, mais bien avant. Et l'escargot petit gris, ça coupe tête bêche.
Oui.
Alors que l'escargot de Bourgogne va s'accoupler debout.
Ah bon?
Les espèces ne peuvent pas s'accoupler entre elles.
Et entre l'accouplement et la ponte des œufs, il se passe combien de temps?
Alors, c'est relativement variable. Ça peut être de quelques jours à plusieurs semaines.
À cause de cet anus dans le cou, Marjorie a refusé que nous diffusions cette réponse le 1er avril. Elle nous a dit « personne n'y croira ». Alors que là, aujourd'hui, le 8, vous savez que c'est vrai.
You know I love you so bad. I don't believe in love. You know I love you so bad. So bad. I love you so bad. Like the kid in the back of the classroom who can't do the math 'cause he can't see the blackboard. So bad. You know I love you so bad.
C'est nouveau, c'était Ezra Furman, Love You So Bad. Lundi dernier, Pierre Arditi était l'invité d'Augustin Trapenard. Il racontait l'histoire d'un petit garçon qui était allé voir Tintin au cinéma. En sortant, on lui demande s'il a aimé. Il répond non. Alors évidemment, on lui demande pourquoi. Et le petit, horriblement déçu, répond « Le capitaine Haddock, il n'a pas la même voix que dans l'album. »
Je m'appelle Augustin, j'ai 6 ans et demi. Je voudrais savoir d'où vient la voix.
Augustin, le docteur Jean Abitbol vient justement d'écrire « Le pouvoir de la voix » chez Alary Éditions. Jean Abitbol, ancien chef de clinique à la faculté de médecine de Paris, chirurgien ORL et phoniatre. D'où vient la voix? Demande Augustin.
Ah, c'est formidable. La voix, c'est la signature de l'homme. C'est ta signature en tant que petit homme que tu es maintenant. Alors, c'est fait de quoi la voix? Eh bien, il y a deux choses très simples, Augustin, qu'il faut que tu comprennes et c'est très facile. La voix, c'est fait avec des voyelles, avec des consonnes. Bonjour Augustin, tu vois bien que j'ai mis des mots, bonjour, et Augustin avec des voyelles. Ça, c'est les mots. Mais c'est fait de bien plus que ça. C'est fait avec une musique, qui est ce qu'on appelle la musique de la voix. Alors nous, dans notre terme, c'est un peu compliqué, on appelle ça la prosodie. Mais bon, c'est pas important, c'est la musique de la voix. Et d'où vient la voix ? Bien de notre cerveau. Une partie du cerveau qui te permet d'articuler, de faire « a, e, i, o, u ». Et puis, une autre partie du cerveau qui te permet de sentir que t'es triste, « a, e, i, o, u ». Ou que t'es gay, « ah, formidable ». Mais il va commander quoi, le cerveau ? S'il a rien à commander, il peut rien faire. Eh bien, il y a, comme un violon, comme un piano dans la gorge, qu'on appelle les cordes vocales, qu'on appelle le larynx. Alors, il va envoyer une information, et il va dire au larynx, à toi de bouger les cordes vocales. Et à ce moment-là, on n'a que deux cordes vocales, pas plus. Ces deux cordes vocales au milieu du cou sont en arrière, regarde ton papa, derrière la pomme d'Adam, qui est dans le cou, qui est bombée, ben c'est juste derrière ça, ils sont au nombre de deux. Et là, que se passe-t-il ? Le cerveau va dire, il faut que je ferme les cordes vocales pour pouvoir parler. Et les cordes vocales se ferment. Mais elles s'ouvrent si tu veux respirer.
Mais comment vous dites de fermer ou ouvrir ? C'est une corde comme...
C'est deux cordes vocales qui se joignent l'une contre l'autre.
Ah, fermer, c'est toucher ?
Elles se touchent, tout à fait. C'est
d'accord.
Ça que j'entends fermer.
Et elles s'écartent.
C'est qu'elles se touchent l'une contre l'autre pour faire vibrer. Car c'est les deux cordes vocales qui vibrent ensemble.
Et quand elles s'écartent,
il n'y a pas de son. C'est comme si je vous parle comme ça. Et à ce moment-là, on chuchote. Et à ce moment-là, les cordes vocales ne se touchent pas. C'est nous qui décidons par un air commandé par notre cerveau.
D'accord.
Et c'est comme quand je veux fermer la main ou l'ouvrir, quand je ferme mes doigts ou je les ouvre, c'est un air qui fait ouvrir ou fermer. Eh bien là, j'ouvre, entre guillemets, c'est comme ça qu'on dit chez nous, le larynx, les deux cordes vocales s'écartent quand on veut respirer, puis elles se rapprochent, elles se collent, elles se ferment l'une contre l'autre, c'est pour ça que nous on dit fermer, parce qu'elles ferment la gorge. Alors pourquoi elles ferment la gorge ? Pour deux raisons. La première, c'est pour parler, puisqu'on ne parle qu'en soufflant. A-E-I-O-U, c'est quand je souffle. Et quand j'inspire, c'est-à-dire quand je mets de l'air dans mes poumons, eh bien les cordes vocales s'écartent, sinon tu ne pourrais pas les mettre. Donc, le larynx a deux fonctions. Pas seulement la voix pour parler, mais également lorsque tu fermes tes cordes vocales, donc quand elles se touchent, pour que quand tu avales, tu n'avales pas de travers. Sinon, ça passerait dans les bronches et dans les poumons. Et c'est la raison pour laquelle... Quand on avale, les cordes vocales se ferment. Maintenant, ce larynx a une autre fonction. Il va s'ouvrir pour que tu respires. Sinon, tu ne pourrais pas respirer. Donc, pour faire l'histoire plus simple, Augustin, d'où vient la voix ? Bien du cerveau d'abord, qui va commander, comme on commande la main pour ouvrir ou fermer la main, les muscles du larynx pour ouvrir les cordes vocales et les faire séparer, ou pour les rapprocher et te faire parler. Mais il fait beaucoup plus que ça. Parce que ça, les animaux peuvent le faire. Mais il fait également bouger et faire une orchestration de tout ce qu'on appelle la caisse de résonance qui est au-dessus des cordes vocales dans ta bouche, dans ta gorge et qui font que tu peux faire des voyelles.
Docteur Habitbol, merci. Le week-end dernier, notre répondeur est tombé en panne. Au nom de Radio France, je demande pardon à tous ceux qui se sont cassés non pas à la voix mais le nez. Le 01 56 40 43 57 vous attend à nouveau avec toutes vos questions. Sachez qu'il n'y en a jamais de sottes. Le site des petits bateaux vous attend sur la page de franceinter.fr. Nous avons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30. Nous, c'est Marjorie Devoucou pour la réalisation, Jean-Baptiste Audibert pour la programmation, Kevin Pelot à la console, Noé Bréham à l'animation. Je pense que je n'ai oublié personne. Je vous laisse avec Denis Chessou pour la Tulu, mon petit loup.